Section 5, Gérant des richesses. Chapitre 28, Les richesses sont des talents confiés. Les disciples du Christ ne doivent pas mépriser les richesses. Ils doivent les regarder comme des talents confiés par le Seigneur. Par un usage judicieux de ces dons, nous pouvons en être les bénéficiaires pour l'éternité, mais nous devons nous souvenir que Dieu ne nous donne pas les richesses pour les utiliser selon notre fantaisie, pour satisfaire nos désirs, pour en disposer ou les retenir à notre gré. Nous ne devons pas employer les richesses d'une manière égoïste, uniquement pour notre plaisir. Un tel comportement envers Dieu et envers nos semblables ne serait pas correct et n'entraînerait finalement que de la perplexité et des difficultés. Le monde accorde ses faveurs aux riches et leur attribue une valeur plus grande qu'aux pauvres gens honnêtes. Mais les riches développent leur caractère d'après la façon dont ils emploient les biens qui leur ont été confiés. Ils montrent ainsi si oui ou non on peut leur faire confiance et leur accorder les richesses éternelles. Riches et pauvres à la fois décident de leur destinée future et prouvent qu'ils sont dignes de participer à l'héritage des saints dans la lumière. Ceux qui investissent leurs richesses dans ce monde pour en faire un usage égoïste révèlent ainsi des traits de caractère qui indiquent de quelle manière ils agiraient si de plus grandes responsabilités leur étaient confiées, s'ils étaient mis en possession des impérissables trésors du royaume de Dieu. Les principes égoïstes qui sont en honneur dans le monde sont opposés à ceux qui prévalent dans le ciel. Tous les hommes sont placés sur un pied d'égalité dans le ciel. Pour quelles raisons les richesses sont-elles considérées comme injustes et appartenant à Mammon? Du fait que Satan emploie les richesses du monde pour prendre les âmes au piège, les tromper et les abuser, en vue de les précipiter dans la ruine. Dieu nous a donné des directives sur la manière dont nous devons user des richesses pour répondre aux besoins de l'humanité souffrante, pour faire prospérer sa cause, pour instituer son royaume dans ce monde, pour envoyer des missionnaires dans les régions lointaines, pour diffuser la connaissance du Christ dans toutes les parties de la terre. Si les biens confiés par Dieu ne sont pas utilisés de cette manière, Dieu n'en tiendra-t-il pas compte au moment du jugement? Des âmes périssent dans leurs péchés tandis que des membres d'église qui se prétendent chrétiens emploient les fonds sacrés appartenant à Dieu à satisfaire des appétits malsains, en s'abandonnant à leurs penchants. Comment des biens sont gaspillés? Quel énorme pourcentage des richesses confiées par Dieu est dépensé dans l'achat de tabac, de bière, de boissons alcoolisées? Dieu a interdit toutes ces complaisances parce qu'elles détruisent l'organisme humain. De cette façon, la santé est sacrifiée et la vie elle-même offerte sur l'autel de Satan. Les appétits pervertis affaiblissent le cerveau, à tel point que les hommes deviennent incapables de penser d'une façon subtile et claire, et de tracer des plans conduisant au succès dans les affaires. À combien plus forte raison ne peuvent-ils pas favoriser le développement de l'intelligence pour l'intéresser aux choses spirituelles? Ainsi, les hommes ne parviennent plus à discerner les choses sacrées et éternelles pour les placer au-dessus de celles qui sont profanes et temporelles. Satan a imaginé bien des moyens par lesquels il est possible de dilapider les richesses que Dieu a données. Les jeux de cartes, les paris, les maisons de jeux, les courses de chevaux et les programmes théâtraux sont de sa propre invention, et il a amené les hommes à se livrer à ces amusements avec un zèle intense, comme s'ils voulaient se procurer pour eux-mêmes les avantages précieux de la vie éternelle. Les hommes dépensent des sommes énormes à la poursuite de ces plaisirs défendus. Il en résulte que les facultés qui leur ont été accordées par Dieu et rachetées par le sang précieux du Fils de Dieu sont dégradées et corrompues. Les facultés physiques, mentales et morales qui viennent de Dieu et qui appartiennent au Christ sont mises avec frénésie au service de Satan, détournant ainsi leurs possesseurs de la justice et de la sainteté. On invente tout ce qui peut éventuellement détourner l'esprit de ce qui est noble et pur, et l'on est sur le point d'arriver à la ligne de démarcation, où les habitants de la terre seront aussi corrompus que ne l'étaient ceux qui vécurent avant le déluge. Comme au jour de Noé. Lorsque nous considérons l'époque qui précéda le déluge et que nous tournons notre attention vers les habitudes et les pratiques de la société d'aujourd'hui, nous nous rendons compte que la terre s'avance rapidement vers le déversement des plaies des derniers jours. Les hommes ont corrompu la terre par leurs iniquités. Satan joue avec les âmes humaines. Ceux qui mettent en pratique les paroles du Christ découvriront qu'ils doivent veiller et prier sans cesse pour ne pas tomber dans la tentation. Beaucoup de gens paraissent ne pas comprendre le fait que l'argent qu'ils gaspillent dans des amusements qui font du tort à l'âme et corrompent les facultés morales, est de l'argent qui appartient au Seigneur. Ceux qui dépensent de l'argent à des fins égoïstes glorifient l'ennemi de toute justice et lui sont agréables. S'ils tournaient leur cœur vers Dieu, ils utiliseraient leur argent pour faire du bien à leurs semblables et les élever moralement, et pour soulager la pauvreté et la souffrance. Notre monde souffre de la faim, du dénuement, de la maladie et de la mort. Cependant, si peu de gens sont disposés à renoncer à leurs coupables extravagances. Satan fait assaut d'imagination pour inventer tout ce qu'il est possible d'inventer pour occuper l'esprit des gens et les empêcher de trouver le temps de se poser la question, qu'en est-il de mon âme? Le Christ s'intéresse à la famille humaine. Le propriétaire de tous nos trésors terrestres est venu dans ce monde sous une forme humaine. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Nous ne pouvons pas comprendre à quel point Jésus s'intéresse à la famille humaine. Il connaît la valeur de chaque âme. Combien il fut attristé lorsqu'il vit son héritage racheté par son sang se laisser séduire par les inventions de Satan. L'unique satisfaction que Satan éprouve en se jouant des âmes humaines est de faire souffrir le cœur de Jésus. Bien qu'il fût riche, le Christ s'est fait pauvre pour nous sauver, afin que par sa pauvreté nous fussions enrichis. Cependant, en présence de cette grande réalité, la majorité des gens permet aux possessions terrestres de prendre la place des attraits célestes. Les hommes mettent leurs affections dans les choses d'ici-bas et se détournent de Dieu. Quel grave péché ils commettent en refusant de prendre conscience des réalités et de comprendre à quel point il est insensé de permettre aux affections désordonnées pour les choses terrestres d'extirper de leur cœur l'amour de Dieu. Lorsque l'amour pour Dieu est chassé, l'amour pour le monde s'introduit aussitôt pour prendre sa place. Seul le Seigneur peut purifier le temple de l'âme de toute souillure morale. Jésus a donné sa vie pour la vie du monde, et il attribue à l'homme une valeur infinie. Il veut que l'homme ait une juste appréciation de sa propre valeur, et qu'il songe à son bien-être futur. Si l'œil est conservé en bon état, le corps tout entier sera éclairé. Si la vision spirituelle est claire, les réalités invisibles apparaîtront sous leur vrai jour, et le fait de contempler le monde à venir et éternel fera mieux apprécier le monde présent à sa juste valeur. Le chrétien sera rempli de joie dans la mesure où il sera un économe fidèle des richesses du Seigneur. Le Christ aspire à sauver tous les fils et toutes les filles d'Adam. Il multiplie les avertissements en vue de briser le charme qui maintient l'âme captive dans l'esclavage du péché. Il supplie les hommes de se détourner de leur orgueil. Il amène la meilleure part de l'humanité à une claire vision, et il dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » Tentation subtile. Le Christ a conscience du danger. Il connaît la subtile puissance tentatrice de l'ennemi, car il a lui-même été soumis aux tentations de Satan. Il a donné sa vie pour offrir un temps de probation aux fils et aux filles d'Adam. En présence des conséquences de la désobéissance et des péchés d'Adam, et bénéficiant pour eux-mêmes d'une lumière plus grande, ils sont invités à venir à Jésus, et à trouver du repos pour leurs âmes. Mais plus la lumière est intense et mieux le danger est signalé, plus grave est la condamnation de ceux qui quittent la lumière pour se jeter dans les ténèbres. Les paroles du Christ ont une portée trop sérieuse pour être regardées avec indifférence. Les hommes sont possédés d'un désir insensé de se procurer des biens terrestres. Toutes les formes de malhonnêteté sont pratiquées en vue d'accumuler les richesses. Les hommes s'occupent de leurs affaires avec un zèle intense, comme si le succès dans ce domaine constituait une certitude pour leur gagner le ciel. Ils engagent les biens confiés par le Seigneur dans des affaires terrestres, et les fonds manquent pour faire progresser l'œuvre de Dieu dans le monde par le soulagement des misères morales et physiques de ses habitants. Plusieurs de ceux qui se disent chrétiens négligent d'obéir à l'ordre du Christ lorsqu'il dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Le Seigneur n'oblige pas les hommes à pratiquer la justice, à agir avec miséricorde et à marcher humblement devant leur Dieu. Il place devant eux le bien et le mal, et leur révèle clairement les véritables conséquences qui résultent de l'une ou l'autre de leurs attitudes. Le Christ nous invite et nous dit, suivez-moi. Mais nous ne sommes jamais contraints de marcher sur ses traces. Le fait de l'imiter est le résultat d'un choix délibéré. En contemplant la vie et le caractère du Christ, un désir ardent s'éveille en nous de lui ressembler par le caractère. Et nous nous efforçons d'apprendre à connaître le Seigneur. Nous commençons alors à comprendre que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. L'acquisition des richesses n'est pas un péché. La Bible ne condamne pas un homme riche du fait qu'il soit riche. Elle ne dit pas que l'acquisition des richesses soit un péché, ni que l'argent soit la racine de tous les maux. Au contraire, l'Écriture déclare que c'est Dieu qui donne la possibilité d'acquérir des biens. Et cette faculté représente un talent précieux lorsqu'il est consacré à Dieu et utilisé pour faire progresser sa cause. La Bible ne condamne pas le génie ou l'art, ce sont des manifestations de la sagesse accordée par Dieu. Nous ne pouvons pas augmenter la pureté ni la sainteté du cœur en revêtant le corps de bure, ou en privant le foyer de tout ce qui constitue le confort, l'harmonie ou la commodité. L'Écriture nous enseigne que la richesse devient une possession dangereuse uniquement lorsqu'elle entre en compétition avec les biens éternels. La possession des choses terrestres et temporelles devient un piège lorsqu'elle absorbe les pensées, les affections, l'adoration que Dieu réclame. Ce qui troque le poids éternel de gloire contre les bribes scintillantes du clinquant terrestre, les demeures célestes qui leur sont promises contre quelques années, en prenant les choses au mieux, font un choix insensé. C'est l'échange que fit Ésaü lorsqu'il vendit son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. De même que Balaam lorsqu'il se priva de la faveur de Dieu pour recevoir les récompenses du roi de Madian. De même que Judas lorsqu'il trahit son seigneur de gloire pour 30 pièces d'argent. C'est l'amour de l'argent que la parole de Dieu dénonce comme étant la racine de tous les maux. L'argent est un don qui vient de Dieu pour être fidèlement employé à son service. Dieu bénit Abraham et l'enrichit en bétail, en argent et en or. Et la Bible raconte que Dieu manifesta ses faveurs à David, Salomon, Josaphat et Ézéchia en leur accordant richesse et honneur. Comme pour les autres dons divins, la possession des richesses confère un accroissement de responsabilité et suscite des tentations spéciales. Combien de gens, demeurés fidèles à Dieu dans l'adversité, ont cédé aux brillantes séductions de la prospérité. La possession des richesses permet de révéler la passion dominante d'une nature égoïste. La malédiction s'étend aujourd'hui sur le monde à cause de la sordide cupidité et du vice entretenu des adorateurs de Mammon. Utilité du talent financier. Ceux qui appartiennent au milieu élevé de la société doivent être considérés avec une réelle affection et une sympathie toute fraternelle. Cette catégorie de personnes a été trop négligée. C'est conforme à la volonté du Seigneur que des hommes à qui il a confié de nombreux talents entendent la vérité d'une manière différente de celle qui a été employée dans le passé. Parmi ceux qui doivent entendre en premier l'appel de l'Évangile figureront des hommes d'affaires occupant des postes de confiance, des hommes possédant de vastes facultés créatrices et une formation scientifique, des hommes de génie. Il y a dans le monde des hommes à qui Dieu a confié des facultés d'organisation qui sont nécessaires pour faire progresser l'œuvre dans les derniers jours. Tous ne sont pas prédicateurs. Mais il faut des hommes qui peuvent assurer la direction d'institutions où s'accomplissent des travaux industriels, ainsi que des hommes qui, dans les fédérations, peuvent servir en tant que professeurs et éducateurs. Dieu a besoin d'hommes ayant la vision de ce qui doit être fait, sachant porter avec fidélité des responsabilités d'ordre financier, se tenant aussi solidement que le roc attaché aux principes dans la crise présente et au cours des périls qui surgiront dans l'avenir.